VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gabidorcil et Anastasie Tudiège avec vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 23 décembre 2016. Au sommaire ce soir, Gabi.
Dossier RDC. On est encore dans l'attente de la signature d'un accord entre la mouvance et l'opposition sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale.
Toujours en RDC, les violentes manifestations de cette semaine ont fait 40 morts et une centaine de blessés selon l'ONU. Il y a eu au moins 460 arrestations.
Lutte contre Ebola. L'OMS annonce la mise au point d'un vaccin efficace à 100%.
Noël, c'est dans deux jours. Nous vous ferons vivre les préparatifs en République centrafricaine.
Nous sommes dans les courses pour préparer, au moins pour mettre les enfants à l'aise après les traumatismes qu'ils ont subis pendant 3 ans.
Fin de la cavale du terroriste de Berlin. Le Tunisien Anis Amri a été tué en Italie lors d'un échange de tirs avec la police.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nous commençons en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. La paroisse Saint-Charles Loanga de la commune Katuba a été saccagée par des hommes armés qui ont emporté plusieurs ordinateurs. Cela fait suite aux rumeurs de menaces qui planent sur les paroisses de l'Église catholique en cas d'échec des négociations conduites par la conférence épiscopale ou d'un accord qui ne serait pas dans l'intérêt du peuple congolais. Narval Mabila.
Avant, c'était des rumeurs qui circulaient dans la ville de Lubumbashi, faisant état que la SENCO sera tenue pour responsable dans cas d'échec des négociations ou d'un accord qui ne correspond pas aux aspirations du peuple congolais. Les paroisses de l'Église catholique feront l'objet d'attaques. C'est ce qu'a connu la paroisse Saint-Charles Longa de la commune Katuba. Après plusieurs tentatives de menaces, des hommes non autrement identifiés armés ont saccagé le bureautique de la paroisse et emporté les ordinateurs. Témoignage de l'abbé Médar Kabamba, curé de la paroisse.
Semaine, les manifestants ont voulu saccager l'église et même démolir la grotte mariale. Deux jours après, c'est maintenant qu'on a été visité par les bandits armés qui ont détruit notre bureautique et qui ont emporté les machines ou les ordinateurs. Heureusement, il y a eu quand même intervention vers 3h du matin que ces voleurs ou ces bandits ont pris la fuite. C'est pourquoi il y en a qui s'attaquent à l'église parce que les évêques ont pris cette charge.
Face à ces menaces, les chrétiens condamnent et soutiennent les évêques. Expression d'un chrétien de la paroisse qui gagne l'anonymat pour raison de sécurité.
Nous devons soutenir nos évêques avec les démarches qui sont en train d'entreprendre au niveau de Kinshasa en tout cas.
La société civile du Haut-Katanga est très inquiète face à cette situation qui peut dégénérer. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Et ici, les États-Unis continuent de suivre de très près la situation en République démocratique du Congo. John Lindon s'est entretenu à Washington, ici donc, avec Thomas Perriello, émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs.
Le diplomate américain a qualifié la situation en RDC de fragile. Une fragilité renforcée par l'annonce d'un gouvernement par le président Kabila quelques minutes avant la fin officielle de son mandat.
L'annonce d'un gouvernement le 19 décembre dernier, 5 minutes avant minuit, n'était pas un signe rassurant. Je crois que tout le monde continue à espérer une fois encore que tous les acteurs clés arriveront à un consensus.
Les États-Unis, a-t-il souligné, ont décidé de cibler les sanctions, non pas sur l'ensemble du pays, mais sur certains des pires acteurs qui ont été les plus responsables de la violence, des massacres, de la répression et de la fermeture de l'espace politique. À la question de savoir si les États-Unis envisageaient également de prendre des sanctions contre le président Kabila et sa famille, Thomas Perriello a laissé entendre que cette hypothèse n'était pas écartée.
We've heard from people on Capitol Hill, both Republicans and Democrats, an interest in looking.
Nous avons des membres du Congrès, républicains et démocrates, marquant un intérêt à examiner de près les avoirs de la famille Kabila. L'excellente enquête de Bloomberg News la semaine dernière a permis de lever le voile sur la fortune des Kabila à travers le pays.
Le diplomate américain espère toutefois que malgré l'influence de certaines personnes, un miracle est encore possible.
Il y a certaines personnes qui ont une influence excessive, notamment le président. Nous croyons que s'ils se réunissent de bonne foi sous l'égide des évêques catholiques, nous pourrions encore voir un miracle de Noël en RDC et espérer un chemin pacifique et démocratique vers l'avant.
Si l'on peut franchir cette phase de transition et voir l'état des droits à l'œuvre, le potentiel de développement est énorme pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, a souligné Tom Perriello.
Nous retrouvons maintenant à Kinshasa notre correspondant Charlie Kasereka.
Jusqu'à ce soir, les parties prenantes à ce dialogue espèrent trouver un accord politique. La plénière qui a été annoncée pour 14h a été repoussée 3h plus tard. Les évêques viennent de présenter les projets d'accord à la plénière. À ce moment même, les travaux s'effectuent en commission en présence de toutes les parties prenantes. Dans la journée, les membres de la CENCO avaient rencontré les cas présidentiels ainsi que celui d'Étienne Tshisekedi. L'ultimatum fixé par les évêques aux parties prenantes arrive à échéance ce samedi 24 décembre. En attente de la fin des travaux, tout le monde attend la signature de cet accord. Charlie Kasereka depuis Kinshasa pour VOA Afrique.
Une histoire qui se termine bien à présent. 116 passagers et membres d'équipage de l'avion de ligne libyen détourné ce matin vers Malte ont tous été libérés et tous sont sains et saufs. Bagassi Koura, les deux pirates de l'armée de l'air, armés de grenades et d'un pistolet, se sont rendus, n'est-ce pas?
Oui, ils ont été fouillés et placés en détention, annonce du Premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a communiqué sur Twitter pendant toute l'opération. Selon des sources gouvernementales, les deux pirates seraient des partisans de l'ancien régime de Muammar Kadhafi qui réclament l'asile politique à Malte et veulent annoncer la création d'un parti pro-Kadhafi. L'avion, un Airbus A320 de la compagnie Africa Airways, était parti de Saba dans le sud de la Libye avec 28 femmes, un bébé et 82 hommes, en plus de 7 membres d'équipage en direction de Tripoli. Mais les pirates ont obligé le pilote à poursuivre environ 350 km plus au nord jusqu'à Malte. Ce soir donc, tous les passagers ont été libérés et les pirates entre les mains des autorités maltaises.
Toujours en rapport avec la Libye, un an après les accords parrainés par l'ONU pour une solution politique dans ce pays, 6 pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Italie, ont réaffirmé dans un communiqué conjoint leur soutien au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj.
La Guinée a affirmé vendredi, aujourd'hui donc, qu'aucun de ses soldats n'avait été impliqué dans l'attaque d'un village dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à leur frontière, dans laquelle un civil a été tué, démentant des allégations de sources de sécurité ivoirienne. L'assaut a été mené dans la nuit de mercredi à jeudi à Kpeaba, à environ 15 km de la frontière, un village au cœur d'un litige de longue date entre les deux pays.
Un vaccin d'origine canadienne contre le virus Ebola, qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, s'est avéré efficace jusqu'à 100% contre ce virus mortel, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin de cavale pour l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier de Berlin. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, a été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan, ont annoncé aujourd'hui les médias italiens. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur italien, Salwa Jafari.
Peter Frank, le procureur fédéral allemand.
Nach unserer Erkenntnis haben die italienischen Behörden.
Même si cela signifie que le suspect Anis Amri est décédé, notre enquête se poursuivra. Pour nous, il est très important de déterminer s'il y avait un réseau d'assistance, un réseau de soutien, de planification et d'exécution de cet acte et de l'évasion du suspect.
Des hypothèses très plausibles, puisque le groupe État islamique a indiqué que l'homme abattu vendredi par la police italienne à Milan était bel et bien celui qui avait mené une attaque meurtrière au camion bélier à Berlin. Selon le quotidien italien La Repubblica, Anis Amir a été abattu à Sesto San Giovanni, près de la gare de cette ville, située à 10 km environ au nord de Milan, vers 3h du matin. Une fusillade aurait éclaté dans la nuit quand les policiers italiens lui auraient demandé ses papiers, car il circulait de façon suspecte. Et selon le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, il a ouvert le feu sur les deux policiers. La Repubblica indique que le suspect a été identifié par ses empreintes digitales. Avant de s'installer en Allemagne en juillet 2015, il avait passé 4 ans en Italie peu après son arrivée de Tunisie sur l'île de Lampedusa en 2011. Il avait été condamné pour avoir mis le feu à une école.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a publié ce vendredi une lettre de Vladimir Poutine qui souhaite restaurer une bonne coopération russo-américaine et la porter à un nouveau niveau qualitatif. Il s'agit d'une brève lettre de vœux pour Noël et la nouvelle année. Le futur président américain a signalé à de multiples reprises sa volonté d'œuvrer à un réchauffement des relations avec Vladimir Poutine dont il loue les qualités de leader.
Les États-Unis, toujours, qui ont annoncé aujourd'hui avoir placé sur leur liste noire économique plusieurs ministres syriens, dont celui des finances, Mamoun Hamdan, ainsi que des responsables d'une banque russe, en raison de leur rôle dans les violences commises par le régime de Bachar al-Assad. Le gouverneur de la banque centrale syrienne, Douraï Dourgham, le ministre syrien du pétrole, Ali Ghanem, ainsi que la compagnie syrienne Shamwings, sont également visés par ces sanctions du Trésor américain, qui gèlent leurs éventuels avoirs aux États-Unis et les isolent financièrement.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui sur un texte demandant à Israël de cesser toute activité de colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. Le gouvernement de Netanyahou a lancé un intense lobbying contre ce projet et un haut responsable israélien a accusé le président Obama et le secrétaire d'État Kerry d'être derrière ce projet de résolution présenté à l'ONU par l'Égypte.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est maintenant et c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à Yaoundé, en la présence de la directrice du FMI, Christine Lagarde. Frappés par la chute des cours du pétrole, les six pays de la CEMAC ont annoncé l'ouverture de négociations avec le FMI, écartant la dévaluation du franc CFA. Dans le communiqué final, les chefs d'État affirment que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d'ajustement sur les plans intérieurs et extérieurs, assortis de réformes structurelles adéquates. Le cacao, le café et le sucre n'ont pas connu de mouvement marqué cette semaine, les marchés tournant au ralenti à l'approche des fêtes de fin d'année. Les bonnes conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest prévoient une saison productive en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux. Le gouvernement zambien a annoncé l'abandon le 1er janvier de la taxe d'importation du cuivre, soit 7,5% du coût des matériaux. La décision pourrait permettre de stabiliser les fonderies du deuxième producteur africain de métaux après la RDC.
Pour notre page sport, nous accueillons ce soir en studio Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, pas de surprise pour le trophée du joueur africain de l'année, on connaît les finalistes.
Ouais, l'Algérien Riyad Mahrez de Leicester, le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et le tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Dortmund. Ils sont les trois derniers footballeurs en lice pour le trophée de meilleur joueur africain de l'année. Ce trophée sera remis le 5 janvier à Abuja au Nigeria. Aubameyang pourrait se succéder à lui-même. On se souvient qu'il avait mis fin l'année dernière à 4 ans d'hégémonie de l'Ivoirien Yaya Touré. Aubameyang, 27 ans, a été sacré meilleur joueur de Bundesliga cet été.
Le Sénégal, premier pays africain au classement du football mondial de la FIFA.
L'Argentine qui termine l'année 2016 en tête du classement FIFA. L'Albicéleste achève donc cette année juste devant son grand rival, le Brésil. Troisième position pour l'Allemagne. L'Argentine qui avait pris le leadership de ce classement en avril dernier aux dépens de la Belgique, avec notamment Lionel Messi qui était parti, vous vous en souvenez, à la retraite internationale après la finale de la Copa América avant de se raviser. Pour l'Afrique, le Sénégal est 33e, suivi par la Côte d'Ivoire 34e, la RDC arrive 48e.
Coup de tonnerre sur le marché des transferts, Oscar qui file en Chine.
Où s'arrêtera l'ambition dévorante du football chinois, l'international brésilien de Chelsea, Oscar qui va signer au Shanghai CIPG, club de la Super League chinoise, pour un montant, selon la presse, record de 71 millions d'euros. Les clubs de Super League ont dépensé plus de 400 millions d'euros pour l'achat de joueurs en 2016, après un appel du gouvernement chinois à faire du pays une superpuissance footballistique d'ici 2050.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Clippers, déjà privés de Blake Griffin, opéré d'un genou, ont perdu en cours de match Chris Paul. Cela ne les a pas empêchés d'infliger aux Spurs de San Antonio leur deuxième défaite à l'extérieur de la saison. Victoire 106-101. Golden State s'est fait peur à Brooklyn. Victoire 117-101. Les Knicks de New York ont confirmé leur sursaut en dominant Orlando 106-95. Enfin, à Miami, le Heat est venu à bout de Los Angeles, les Lakers 115-107.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault et bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Chérubin Gabi Dorcil et Anastasie Tudiache avec vous. Place tout de suite au dossier du jour. Première escale, Bangui.
Après 3 années de crise, les fêtes de fin d'année s'annoncent radieuses en Centrafrique. À Bangui, les parents s'activent dans les préparatifs. Reportage de Freeman Sipila au centre de la capitale.
Dans presque tous les arrondissements, la capitale centrafricaine vit au rythme des fêtes de fin d'année. Les femmes se bousculent dans les salons de coiffure et chez les couturiers. Les marchés sont aussi débordés des articles divers. Seulement, les prix sont jugés trop élevés. Malgré tout, les opérateurs économiques font bon marché par rapport aux 3 dernières années. Ernest Pemango est commerçant au centre-ville.
Il y a quand même un changement. Pourquoi ? Parce que les dollars ont augmenté. Donc, des fois, le prix un peu est augmenté que l'année passée. Mais quand même, ce sont de bonnes qualités. Bien sûr, bon, beaucoup de gens aiment, apprécient quand même notre qualité. Parce que le problème, c'est la qualité. Vous payez quelque chose qui est durable. Ça va aussi. Ça va être une bonne chose. Les prix, cela dépend. Ça varie. Il y a des vélos de 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Cela dépend.
Gisèle est ménagère. Elle pense que les célébrations de cette année s'annoncent à merveille depuis la fête du 1er décembre, fête nationale centrafricaine.
Comme vous avez vu, ça a très bien débuté avec le 1er décembre. Et voilà pour la fête de Noël. Depuis 3 ans, les enfants n'ont pas fêté. Ils vont le fêter comme il le faut. Donc nous sommes dans les courses pour préparer, au moins pour mettre les enfants à l'aise après les traumatismes qu'ils ont subis pendant 3 ans. Donc là, vous nous voyez, on est en pleine course, là, en train de faire des courses et qu'on a lu les sapins. Va être allumé, la maison va être éclairée, les enfants seront à l'aise.
La fête, oui, mais tout le monde n'entend pas célébrer de la même manière. Certaines familles manquent de moyens financiers, comme celle de Jean-Pierre.
Vous savez que tout est question d'argent. Si tu as de l'argent, tu peux bien préparer une fête. Mais quand tu n'as pas d'argent, on ne sait pas comment tu peux t'organiser pour bien passer la fête. Alors là, maintenant, il y a quand même quelque chose, on peut se débrouiller. Mais il est question d'argent, tout simplement, quoi, parce qu'on n'a pas d'argent. On suppose que ça va bien marcher parce que la paix est revenue, la paix tangue à revenir. On suppose que ça va bien marcher.
Pour rendre agréable la célébration des fêtes de fin d'année 2016, placée sous le signe de la réconciliation et de la paix, les fonctionnaires ont reçu leur salaire avant la date habituelle. Un signe de relèvement du pays fragilisé par 3 années de violence, à en croire de nombreux centrafricains. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Cinquième et dernière partie de notre série VOA Afrique consacrée au virus Ebola. Notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, s'est rendu à Gekedou. Il nous parle ce matin des problèmes de santé des guéris d'Ebola.
Les guéris d'Ebola n'en ont pas fini avec les problèmes de santé. À Gekedou, ils sont nombreux à se plaindre.
À l'heure où je suis là, même si c'est la roue que je prends pour que je vais essayer de travailler ici, dès que j'arrive par là, il me faut faire un repos minimum de 15 minutes.
Jusqu'ici, j'ai des problèmes au niveau de l'oreille gauche. Parfois même, il y a un bruit.
Ça ne peut pas faire plus d'un mois comme ça si je ne tombe pas malade. C'est-à-dire le corps chaud, un mot de ventre, tous des problèmes, etc. comme ça.
Les anciens malades d'Ebola sont suivis par les services sanitaires guinéens, mais certains ne semblent pas être satisfaits. Sassa Bass, président des guéris d'Ebola de Gekedou.
Si vous voyez que je parle avec insistance, je lève le ton. On parle de prise en charge des sorties guéries d'Ebola dans le domaine médical. Mais rien n'est respecté à Gekedou, à l'heure où je vous parle. Rien.
Les échantillons de sperme sont prélevés. Sassa Bass souhaite que les résultats de l'analyse lui soient communiqués.
On nous demande de faire le prélèvement de sperme. On le fait. Mais ce qui m'étonne, on fait le prélèvement. Mais les résultats, jusqu'à présent, on ne comprend pas.
Le prélèvement fait partie des activités de surveillance mises en place par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Docteur Fassine Yattara, responsable de l'unité de surveillance à l'ancienne coordination.
Il y a un certain nombre de composantes, notamment tous les aspects de sensibilisation, pour accepter la collaboration des personnes mâles capables de pouvoir peut-être transmettre l'Ebola à partir de leur spermatozoïde. Il y a également l'analyse du lait maternel chez les personnes guéries d'Ebola, les femmes qui ont fait des enfants après, pour voir si elle ne peut pas contaminer son enfant en allaitant.
Du retour de Gekedou, pour La Voix de l'Amérique, Zakaria Camara.
Et sachez qu'un web documentaire consacré à Ebola est aussi disponible sur notre site voafrique.com.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Parlons maintenant de la situation des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Et pour ces milliers de personnes, l'année se termine avec un triste record. Sur les derniers développements concernant cette tragédie, on écoute Florence Kim. Elle est porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations.
Ce que l'on peut confirmer d'emblée, c'est que sur la route qui mène de la Libye à l'Italie, il y aurait eu une collision entre deux bateaux qui transportaient chacun entre 120 et 140 personnes. On sait qu'il y a un peu plus de 150 survivants, de rescapés, mais on estime surtout à 100 le nombre de morts. Et l'enquête est en cours pour déterminer les conditions exactes des naufrages.
Alors cette année a été particulièrement macabre pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Quels sont les derniers chiffres globaux dont vous disposez ?
Eh bien, hier, nous avons atteint le triste record de 5000 morts en Méditerranée cette année. C'est 1300 de plus qu'en 2015 et 2000 de plus qu'en 2014. Alors, il faut savoir aussi que la majeure partie de ces naufrages se passe sur la route qui mène de la Libye jusqu'à l'Italie, comme il s'est passé d'ailleurs avec cette collision il y a quelques jours en Méditerranée.
Alors pour l'année 2017, qu'est-ce qu'il faut faire pour infléchir la courbe, réduire le nombre de victimes sur la Méditerranée ?
Ce qui est important de rappeler tout d'abord, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une crise migratoire en termes de chiffres, mais c'est une crise humanitaire. Véritablement, avec 5000 morts en Méditerranée, ce que l'on doit faire, c'est ouvrir les voies légales de migration. Empêcher que des personnes qui pourraient obtenir, qui pourraient se déplacer légalement en Europe, par exemple, doivent emprunter des routes aussi dangereuses. Et voilà, plus on édifie et plus on érige des murs à la migration, plus on pousse les migrants dans les mains des passeurs.
Il faut pousser les gouvernements européens à alléger les procédures d'immigration, selon vous, donc.
Mais à utiliser surtout les moyens qui existent déjà. Il y a des possibilités de réunification, de regroupement familial, pardon. Il y a des possibilités de visa humanitaire. Voilà, favoriser des outils qui existent déjà.
Au micro d'Abdourahmane Dia, Florence Kim, porte-parole de l'OIM.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
De l'Afghanistan à la Syrie, la prochaine administration américaine aura plusieurs défis à relever à partir du 20 janvier. Mais ces problèmes ne viendront pas tous de l'étranger, Lionel Gaïma.
L'année 2017 retrouvera les États-Unis impliqués dans des guerres contre les extrémistes islamistes en Afghanistan et les djihadistes du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Si des progrès sont à signaler dans la lutte tactique contre les militants de Daesh, personne ne sait ce que fera l'administration Trump pour une résolution durable du conflit syrien. Voici l'opinion d'un expert en matière de défense, Michael O'Hanlon. Nous n'avons aucune stratégie pour mettre fin à la guerre civile en Syrie. Monsieur Trump peut implicitement être disposé à laisser gagner le président Assad, mais je doute que ce soit une option viable car Assad a trop de sang sur les mains. En Afghanistan, la guerre dure depuis 15 ans. L'effectif des forces internationales a été réduit, passant d'environ 140 000 en 2011 à moins de 15 000 aujourd'hui. Il pourrait y avoir, de l'avis de Michael O'Hanlon, un renforcement à court terme de troupes américaines dans ce secteur. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire davantage si cela contribue à atténuer un peu la pression sur l'armée et la police afghane, si cela leur accorde un peu plus de temps pour se remettre des énormes pertes subies sur le terrain. Mais alors que les États-Unis combattent l'extrémisme à travers le monde, la Russie et la Chine modernisent leurs forces militaires. Écoutons David Oshmanek de la RAND Corporation.
Parce que nous étions tellement concentrés sur les poursuites contre Daesh, la stabilisation de l'Afghanistan et l'Irak, et parce que nous vivons sous les contraintes de la loi sur le contrôle budgétaire depuis 2012, Nous n'avons pas pu acheter le matériel moderne nécessaire pour contrer les initiatives d'autres puissances comme la Russie et la Chine.
Mais tout au long de la campagne électorale, Donald Trump a promis un accroissement des capacités militaires des États-Unis.
Nous avons le meilleur personnel au monde dans nos forces armées. Nous allons reconstruire notre armée épuisée et nous allons enfin prendre soin de nos anciens combattants.
D'après l'expert David Oshmanek, les États-Unis devraient investir par exemple dans la fabrication des missiles de croisière et de missiles air-air, car, dit-il, ce sont les armes qui permettront aux militaires américains de mieux dissuader les menaces extérieures.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
Rien que la beauté du gospel et la voix de l'immortel Whitney Houston pour nous mettre dans l'ambiance de la fête. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Michel Joseph d'en avoir assuré la mise en onde. À la présentation, Anastasie Tudièche et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook. Partagez avec nous vos impressions, vos photos, posez-nous des questions et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM,
101.7 FM Kankuzo, Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.